Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la Sainte Sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mercredi 24 Aban 1402 du calendrier iranien, 15 novembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Attaque des hôpitaux de Gaza. Human Rights Watch demande une enquête pour crime de guerre. La République islamique d'Iran appelle à l'arrêt immédiat de la guerre à Gaza et déclare qu'il n'y a aucune chance d'une victoire d'Israël. Agression militaire de l'armée israélienne contre l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Opération anti-américaine en Asie occidentale. L'Iran rejette les accusations du Pentagone. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé à l'arrêt immédiat de l'agression sanglante d'Israël contre la bande de Gaza, soulignant que le régime occupant n'a aucune chance de gagner la guerre. Lors d'une réunion avec Martin Griffiths, chef des opérations humanitaires de l'Organisation des Nations Unies dans la ville suisse de Genève, Hossein Amir Abdullahian a déclaré que les attaques israéliennes contre le peuple palestinien à Gaza ne font qu'augmenter les coûts pour Washington en tant qu'allié de Tel Aviv. Malheureusement, la portée des attaques du régime sioniste contre Gaza s'étend et il est nécessaire de prendre des mesures immédiates et efficaces pour y mettre un terme, a-t-il déclaré. Le régime d'occupation israélien a lancé un assaut militaire contre l'hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza, qui est venu d'héberger des milliers de patients et de personnes déplacées qui y cherchent refuge suite à une guerre israélienne incessante. Sur la base de renseignements, les forces de l'armée israélienne mènent une opération précise et ciblée contre l'hôpital, ont prétendu les forces sionistes dans un communiqué publié mercredi. Prendre pour cible des hôpitaux et tuer des civils sont considérés comme des crimes de guerre. Israël commet ces crimes dans la bande de Gaza depuis début octobre. Le régime israélien a tué près de 11 500 Palestiniens, dont plus de 8 000 femmes et enfants, depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle il a lancé son agression contre la bande de Gaza. Un haut responsable du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, a déclaré que le régime israélien, qui a plongé la bande de Gaza dans une guerre incessante, planifie de répéter une autre Nakba catastrophe, faisant référence au nettoyage ethnique des autochtones palestiniens par le régime sioniste en 1948. Le régime israélien envisage de reproduire une autre Nakba sous les yeux du monde moderne, a dénoncé mardi Osama Hamdan, membre du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza. Israël a tué plus de 11 500 Palestiniens, dont plus de 8 000 femmes et enfants, depuis le 7 octobre à Gaza, date à laquelle il a lancé son agression contre l'enclave palestinienne. Le Pentagone a exprimé sa profonde inquiétude face à la multiplication des attaques contre ses sites militaires américains en Asie occidentale, dans un contexte de sentiments anti-américains croissants dans toute la région. Une porte-parole du Pentagone a avancé que les forces américaines en Irak et en Syrie avaient été attaquées 55 fois au cours du mois dernier. Elle a déclaré que 59 soldats américains avaient été blessés au cours de ces opérations. Washington impute la multiplication de ces frappes à la République islamique d'Iran, prétendant que ce pays soutient les opérations anti-américaines dans la région. La République islamique d'Iran rejette ces accusations, affirmant que les groupes de résistance agissent de manière indépendante et ne reçoivent pas d'ordre de Téhéran. Les sentiments anti-américains sont vifs dans toute l'Asie occidentale en raison du soutien de Washington au génocide israélien à Gaza. Les factions de la résistance en Irak et ailleurs ont mis en garde à plusieurs reprises les États-Unis contre le financement et le soutien à la guerre contre les Palestiniens. Et enfin, l'ambassadeur permanent de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies a tiré la sonnette d'alarme sur la menace existentielle que représentent les armes de destruction massive pour l'humanité. Amir Saïd Iravani a appelé à la création d'une Asie occidentale exempte de telles armes. L'ambassadeur d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies s'exprimait lors de la quatrième session de la conférence sur la création d'une zone d'Asie occidentale exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive. Il a également évoqué les menaces posées par l'arsenal nucléaire du régime israélien. Iravani faisait référence aux récentes remarques d'un ministre israélien qui a évoqué la possibilité de larguer une bombe nucléaire sur la bande de Gaza au milieu de l'attaque meurtrière du régime sioniste contre le territoire assiégé. Il faisait également référence à une menace similaire lancée par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou contre la République islamique d'Iran lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. On estime qu'Israël possède des centaines d'ogives nucléaires dans son arsenal. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Les attaques de l'armée israélienne contre les hôpitaux détruisent le système de santé de Gaza et devraient faire l'objet d'une enquête en tant que crime de guerre, a déclaré Human Rights Watch, alors que les hôpitaux de Gaza sont hors service. Human Rights Watch a rejeté dans un nouveau rapport les allégations des sionistes prétendant que la résistance palestinienne utiliser les hôpitaux de Gaza à des fins militaires. Cette organisation souligne que les attaques israéliennes contre les hôpitaux et les infrastructures médicales constituent un crime de guerre et que les États-Unis et l'Europe devraient cesser de soutenir militairement le régime israélien. À la suite des attaques brutales et constantes du régime israélien contre les centres civils, en particulier les hôpitaux, les centres médicaux et de santé dans la bande de Gaza, Human Rights Watch a annoncé qu'aucune preuve ne justifiait de priver les hôpitaux et les ambulances de leur statut protégé conformément aux normes de droit international. Selon Human Rights Watch, Israël n'a fourni aucune preuve sur un prétendu usage par le mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, des centres médicaux et des hôpitaux de la bande de Gaza. Human Rights Watch a appelé la Cour pénale internationale et la Commission d'enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé à enquêter sur les attaques répétées lancées par l'armée israélienne sur les installations médicales, les équipages et les moyens de transport. Les attaques illégales de l'armée israélienne contre les installations, le personnel et les transports médicaux continuent de détruire le système de santé de la bande de Gaza et devraient faire l'objet d'une enquête en tant que crime de guerre, précise le rapport. Nous avons mis au point les attaques menées par Israël contre les hôpitaux de Gaza du 7 octobre jusqu'au 7 novembre et interrogé des témoins oculaires, 16 membres du personnel médical et un certain nombre de responsables d'hôpitaux. Aussi, dans nos recherches, nous avons utilisé des informations provenant de sources fiables, des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux et des images satellites, ainsi que des informations de l'Organisation mondiale de la santé, lit-on dans le rapport. Les résultats de nos recherches montrent que les prétentions d'Israël sur l'usage des hôpitaux par la résistance palestinienne à des fins militaires ne sont pas vraies et ne peuvent être confirmées. Nous réitérons que les hôpitaux et les centres de soins font partie des lieux civils qui doivent être protégés conformément au droit international et aux lois de la guerre, souligne le rapport. Human Rights Watch a souligné qu'Israël devrait immédiatement mettre fin aux attaques illégales contre les hôpitaux, les ambulances et d'autres biens civils, ainsi qu'au siège total de la bande de Gaza, qui équivaut, selon cette organisation, à un crime de guerre et à une punition collective. Cette organisation a également appelé les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Allemagne et d'autres pays à suspendre leur aide militaire et leur vente d'armes à Israël tant que les troupes israéliennes resteraient impunies pour avoir commis des violences graves et généralisées qui constituent des crimes de guerre contre les civils palestiniens. Les sionistes n'ont aucune preuve pour étayer leurs fausses allégations sur l'utilisation des hôpitaux à Gaza par la résistance palestinienne et le régime sioniste poursuit toujours et encore ses frappes contre les hôpitaux et les centres de santé à travers la bande de Gaza.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant la Palestine, étant Gaza, étant cette occupation de plus en plus difficile où les soldats de l'entité sioniste visent directement par leur viseur, cette fois sans accident possible, les civils gazaouis auprès des hôpitaux. Nous avons vu également des confiscations de réserves d'eau afin d'assoiffer la population. C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui. Je vous propose d'abord un reportage avec images et résumé de la situation. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite, notre reportage.
Selon les médias palestiniens, Des avions israéliens ont bombardé samedi 4 novembre l'école Al-Fahoura dans le camp de Jabalia où se trouvaient des milliers de personnes déplacées au nord de la bande de Gaza. L'école affiliée à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, INRWA, abritait des milliers de personnes déplacées qui avaient échappé au bombardement de l'aviation israélienne. Selon le directeur de l'hôpital Al-Shifa, l'attaque a fait au moins 150 morts et plusieurs blessés. Des ambulances continuent de transporter les victimes vers les hôpitaux voisins. Les chasseurs israéliens ont également ciblé le principal générateur électrique de l'hôpital Al-Wafa, provoquant un incendie majeur ainsi que les panneaux solaires répartis sur les toits des bâtiments résidentiels et commerciaux entourant le complexe médical Al-Shifa à Gaza. L'armée israélienne a aussi visé l'entrée de l'hôpital pour enfants Al-Nasr dans l'ouest de la ville de Gaza, selon la télévision Al-Aqsa. Plusieurs médias locaux palestiniens ont rapporté que l'attaque avait fait des victimes civiles. L'agence de presse russe RT a également rapporté qu'un réservoir d'eau publique qui alimente plusieurs quartiers à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a été touché. L'aviation israélienne a bombardé les quartiers d'Al-Zaytoun et Tel Al-Hawa avec des dizaines de missiles ailés et à percussion coïncidant avec des tirs nourris dans la zone d'incursion et de violents bombardements d'artillerie à ton appris de la même source. L'aviation israélienne a détruit la mosquée Ali ben Abi Talib dans la rue 8 à une maison à côté. 14 bateaux de pêche ont été incendiés dans le port de pêche de Rafah à la suite des bombardements israéliens. Dimanche, au 37e jour de guerre, 20 des 36 hôpitaux de la bande de Gaza sont hors service, selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU OCHA. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est alarmé tôt dimanche d'avoir perdu le contact avec ses interlocuteurs à l'hôpital Al-Shifa de Gaza-ville, le plus grand du territoire, objet d'attaques répétées. Plusieurs organisations internationales s'inquiètent du sort des hôpitaux. Médecins sans frontières, MSF, a rapporté des bombardements incessants sur les hôpitaux de Gazaville. L'hôpital Al-Shifa a été touché plusieurs fois, y compris la maternité. La situation dans cet hôpital est vraiment catastrophique, a alerté Anne Tyler, la chef de la mission de MSF dans les territoires palestiniens. De son côté, le directeur de l'hôpital, Mohamed Abu Salmia, a demandé à la communauté internationale de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il cesse de viser des hôpitaux et des ambulances.
Nous revoilà sur les plateaux. Tout de suite, on va faire venir nos invités. Donc, nous avons comme premier invité Jean-Maxime Cornet qui est avec nous depuis le début de ces 36 jours, donc depuis l'attaque du 7 octobre. Bonjour, monsieur Maxime Cornet.
Bonjour Téhéran. Merci pour votre invitation.
Merci à vous. Alors, deuxième invité est Rada Obola, se trouvant au Liban, à Beyrouth. Bonjour, docteur, professeur à l'université, docteur Obola. Ravi de vous avoir également avec nous aujourd'hui.
Merci et merci de m'avoir invité encore une fois sur votre plateau.
Alors, Madame Rada Obola, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Mosquée, écoles, hôpitaux, locales d'ONG ou encore bateaux de pêche. Nous avons également les réserves d'eau qui sont régulièrement touchées. De plus en plus, plus on regarde et on essaye d'analyser les actions de l'entité sioniste sur Gaza, plus on a l'impression que c'est une sorte de prise d'otage des civils gazaouis. Est-ce que vous pensez que ce genre de terme est une exagération de la situation ?
Bah, disons, depuis plus de 75 années, la Cisjordanie et la bande de Gaza subissent un blocus très, très difficile à supporter. Et l'opération des Déluge al-Aqsa a été en fait une conséquence de ce blocus. Moi, je vais me contenter de citer ce que les ONG en droit de l'homme ou en droit humanitaire, dans leur rapport, ont souligné et ont condamné même les actions de l'entité sioniste qui ont été qualifiées crimes de guerre, crimes contre l'humanité. D'abord, l'entité sioniste, depuis X temps, maintient le contrôle de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et Al-Quds via une répression en institutionnalisant diverses formes de discrimination et en pratiquant des violations systématiques des droits de la population palestinienne. Ce sont des propos qui ont été cités, que je cite, de la part de Human Rights Watch, qui date de 2017, donc déjà auparavant. Ensuite, nombre de ces violations ont été commises par l'entité sioniste au nom de sa sécurité nationale, et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que l'entité sioniste non seulement viole le droit international humanitaire, si elle persiste à faire une guerre sous le titre de se défendre, mais en fait, ce n'est même pas au nom de se défendre, c'est au nom de sa sécurité nationale, c'est-à-dire qu'elle est en train même aussi de violer le droit international public, car elle oublie, je parle de l'entité sioniste, qu'elle a occupé un pays, un État qui avait les trois éléments que reconnaît ce droit international pour que ce soit un État, à savoir, il y avait une population, il y avait une terre et il y avait un gouvernement. Et si on se souvient, je rappelle à mes étudiants que la première violation qui a été commise après la Deuxième Guerre mondiale contre le droit international public a été commise par l'entité sioniste quand ils ont assassiné le comte Bernadotte, qui était le premier émissaire onusien à venir dans la région afin de proposer un plan ou une solution de deux États. Et pour ne pas pour fuir la Cour internationale de justice, l'entité sioniste a estimé que c'est une organisation terroriste qui a commis ce crime et qu'elle n'était pas responsable de cette organisation. Preuve qu'elle a portée, c'est qu'elle considère que cette organisation était terroriste. Seulement, voilà, le problème, c'est que si tel est le cas, pourquoi dans le musée Lévy, jusqu'à aujourd'hui, on a des photos et des images de l'assassinat du comte Bernadotte comme faisant partie de l'histoire de l'instauration, de la création de l'entité sioniste. Donc, depuis le début, l'entité sioniste est en train de violer le droit international public et dans tous les cas de guerre, et moi, je peux parler en tant que témoin, puisque j'ai vécu la guerre de 1982, j'ai vécu la guerre de 2006. Je peux vous dire qu'en 1982, à l'époque, j'avais 15 ans, donc j'habitais dans un quartier qui était réputé plus ou moins favorable, et j'avais à côté de moi, à côté de mon immeuble, il y avait une caserne de l'armée libanaise, et donc ils ont bombardé la caserne, et ils ont bombardé mon immeuble, alors que mes parents étaient à l'intérieur. Il y avait dans cet immeuble, il n'y avait pas de Syriens, il n'y avait pas de Palestiniens, il n'y avait rien, quoi. Et donc, dans la région, que ce soit les académiciens, les élites intellectuelles, que ce soit la population, tout le monde sait que l'entité sioniste commet des crimes qui sont toujours impunis. Et le problème, c'est qu'elle a toujours le soutien des États-Unis, qui ont le droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Et toutes les résolutions qui ont été votées au sein du Conseil de sécurité non pas, concernant justement l'entité sioniste, ou qui concerne l'entité sioniste, ou qui concerne le conflit israélo-arabe, n'ont jamais été appliquées.
Merci Madame Obola. Monsieur Jean-Maxime Corneille, alors quand on regarde comment l'actualité est française, puisque nous nous adressons souvent aux francophones la plupart du temps, nous voyons comment les médias s'en occupent. Donc je parle de leur manière de voir les choses, sachant que nous avons une jurisprudence en France, sachant qu'il y a la jurisprudence donnée concernant le gouvernement de Vichy, où il y a eu un droit à la résistance qui a été finalement stipulé par un tribunal français. Quel que soit ce que l'on pense sur l'entité sioniste ou la cause palestinienne, les propos ces derniers jours sont extrêmement graves quand on considère les civils gazaouis, puisque finalement on excuse le nombre de morts, on excuse le fait qu'on vise les hôpitaux, on excuse le fait qu'on prend l'eau des citoyens. Encore une fois, on ne s'en prend pas aux citernes des tunnels, on s'en prend à des citernes pour la population civile. Vous-même, vous en pensez quoi, étant vous-même en France, suivant cette actualité et sachant la réalité du terrain ?
Alors, c'est une volonté absolument objective, non pas de faire la guerre, mais de chasser les populations palestiniennes de la bande de Gaza. C'est l'aboutissement d'une volonté biblique d'origine historiquement hébraïque, juive et par extension israélienne à notre époque. C'est-à-dire que la réalisation des soi-disant prophéties sur laquelle s'est basé le judaïsme depuis son origine, le judaïsme dès son origine a été génocidaire. C'est le livre des rois, c'est la légitimité totale de la violence absolue contre toutes les populations cananéennes sous prétexte religieux. C'est-à-dire qu'Israël ne fait que renouer avec l'essence élémentaire du judaïsme dès son origine, l'idée d'une promesse divine légitimant le génocide. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui en train de remettre en cause le droit international, le droit des gens tel qu'il a été historiquement mis en place depuis globalement 5 siècles et en réalité depuis 2000 ans, notamment par l'Église en Europe, puis par extension par les États modernes, avec notamment le rôle de la France dans la construction de ce qui est devenu le droit international public aujourd'hui, le DIP. Et en réalité, la vieille expertise diplomatique française a vu arriver cette hypocrisie, mais c'est une hypocrisie de 5 siècles. Elle était documentée notamment dans Genève contre la paix, un ouvrage très rare de 1936 par le comte de Saint-Aulaire, l'un de nos meilleurs ambassadeurs à l'époque, qui disait très clairement qu'il y avait une lutte entre deux diplomaties différentes et opposées, c'est-à-dire qu'une soi-disant nouvelle diplomatie internationale était en train de remplacer l'ancienne véritable diplomatie, c'est-à-dire les règles diplomatiques véritables, vrai droit international, public, basées globalement, historiquement, sur la domestication de l'emploi de la force, le droit certes des États à faire la guerre, mais à la faire dans certaines règles et dans un contexte où la guerre peut servir à la continuité d'une politique par d'autres moyens, mais par essence, elle doit être limitée. Et de fait, le principe de la prohibition de toute aide aux belligérants aboutit à ce que la guerre soit la plus courte possible pour qu'au final, les négociations sous l'égide des autres pays ayant été spectateurs prennent place le plus vite possible. Ça, c'est le véritable droit international tel qu'il n'existe plus, parce qu'en réalité, il a été déjà lourdement violé depuis au moins 100 ans. Depuis la Première Guerre mondiale.
Monsieur Cornet, oui. Je me permets de vous interrompre pour un petit peu recentrer le sujet. En disant, on a vu également des avocats, donc un avocat en particulier, décider de porter plainte contre les propos islamophobes, les propos racistes tenus sur le net, tenus par des gens parfois directement sur les médias officiels en France en particulier. Est-ce que vous pensez, on avait également l'Algérie indiqué qu'il allait porter plainte, la Colombie a dit qu'elle allait rejoindre cette plainte. Est-ce que vous pensez que ce genre de réaction juridique, légale, peut avoir un impact quelconque sur, par exemple, le droit aux médias français de s'exprimer de cette manière sur les civils gazaouis, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune importance?
Alors, c'est de toute façon une très bonne chose, parce qu'on voit très clairement l'expression d'un fanatisme suprémaciste total qui est de fait dans le judaïsme, je le disais à l'instant, la légitimation des génocides depuis la Bible hébraïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de toute façon une très bonne chose pour deux raisons. Déjà, pour la mise sous pression d'Israël, parce que strictement personne d'humain ne peut cautionner ce que fait Israël en Palestine, mais pas uniquement durant cette épuration de Gaza, parce que c'est réellement une épuration ethnique avec une dimension génocidaire. C'est absolument, d'un point de vue du DIP, c'est absolument imparable. Par contre, ce qui est donc très bien, c'est que d'un côté, ça remet en cause Israël de toutes les façons possibles, et ça remet en cause surtout les fondements génocidaires du judaïsme dès leur origine. Et en plus, oui, concernant la situation française, ça met sous pression la France, et ça montre bien à quel point la France est devenue globalement la putain d'Israël. Parce que de fait, c'est le cas. Et ça, c'est une évolution de longue date qui, en réalité, a été l'objet d'une lutte d'influence en France, mais le résultat, c'est celui-là. Et le fait de voir cette mise sous pression d'Israël, d'une part, mais également de ses parrains, plus ou moins involontaires, spécialement américano-français, même encore davantage que les Britanniques, qui sont historiquement leurs parrains, mais là, on voit à quel point les États-Unis et la France sont les deux parrains les plus mal à l'aise face à cette opération militaire israélienne à dimension nettoyage ethnique et génocidaire. Donc c'est une très bonne chose que la France soit mise sous pression, parce que ça montre à quel point l'hypocrisie des médias français et des politiciens français est évidente. J'ai déjà cité sur votre antenne d'ailleurs les mots de l'ambassadeur français, c'était des avant-Suez, qui racontait comment en réalité le soi-disant réveil du judaïsme français, c'était Pierre Gilbert, ambassadeur, grand ami d'Israël, ambassadeur de France en Israël en 54, qui disait que le réveil soi-disant du judaïsme français et la façon dont un courant pro-israélien a été artificiellement créé en France était clairement dû au fait que les juifs possèdent une grande partie des journaux et du cinéma en France. On est en 1954. Aujourd'hui, c'est la même chose de fait, mais ce qui est très bien, c'est qu'on met sous pression aujourd'hui les médias français et tout cet équilibre des pouvoirs, en réalité, ce déséquilibre en faveur d'Israël, ceci en lieu et place des vieilles relations que la France chrétienne avait avec le monde islamique, qui, en réalité, étaient relativement bonnes, en tout cas étaient entre gens intelligents depuis très longtemps. Donc, encore une fois, je dis que c'est une bonne chose sous cet angle-là, cette mise sous pression sur la France.
Merci, M. Cornet. Madame Rada Obola, alors, on va venir sur un aspect qu'on n'a pas encore parlé ici à Presse TV, le fait que la résistance donc se bat. Il y a des acquis de la part de la résistance, il y a plus d'acquis de la part de la résistance que de l'entité sioniste, d'après les deux parties, c'est-à-dire qu'on regarde les résumés de l'armée israélienne et les résumés de la résistance. Il semblerait que la résistance ait des gains depuis le début de ces 38 jours. Est-ce qu'on pourrait penser que chaque attaque, par exemple, ils sont pris au bateau de pêche gazaoui, à chaque victoire de la résistance, finalement, l'entité sioniste Netanyahou donne l'ordre de tuer d'autres Palestiniens à Gaza. À chaque victoire, finalement, de la résistance, c'est le peuple gazaoui qui devient martyr. Est-ce qu'on peut donner cet aspect-là de vengeance sur Gaza ?
De vengeance, oui, si on veut être sentimental en termes arabes. C'est-à-dire que moi, si je veux parler en termes académiques, disons que en termes stratégiques et militaires, et même en tant que représentation géopolitique, là je remercie votre invité parce qu'il a bien expliqué en fait la représentation géopolitique profonde de l'entité sioniste et celle de la France qui a changé à cause de l'influence grandissante des juifs qui sont devenus, qui ont effectivement construit au fil des années des lobbies, notamment surtout au niveau lobby sioniste, au niveau du quatrième pouvoir. Mais pour revenir à votre question, le dilemme dans lequel le Premier ministre Netanyahu est coincé, c'est en fait il a défini des objectifs de son opération, de son attaque contre Gaza, impossibles à réaliser, de l'aveu de responsables militaires israéliens, de l'aveu de plusieurs observateurs, à savoir éradiquer le Hamas. Mais le Hamas, c'est une idée. Le Hamas, c'est dans l'esprit des gens. Et donc, il est impossible d'éradiquer le Hamas. Ensuite, il a changé de ton en disant que, en fait, je voudrais assassiner, mon but de l'incursion terrestre serait d'assassiner un ou deux cadres au cadre du Hamas. Là encore, il n'a pas réussi. Le problème avec Gaza, pour l'entité sioniste, c'est que toute incursion terrestre signifie qu'il faudrait vraiment que les soldats israéliens pénètrent à l'intérieur de Gaza, qu'il y ait une forme de guérilla. Et tout le monde le sait, et selon des experts militaires libanais, en fait, les tunnels qui se trouvent sous Gaza sont à une profondeur de 30 mètres. Et c'est un labyrinthe, c'est sous forme de labyrinthe. Si vous comparez avec les maisons des fourmis, c'est à peu près la même structure. Et encore, au moment où ils sont entrés, ils ont tenté de s'infiltrer du côté de Gaza oriental. Le Hamas, ou plutôt Qassam, avait justement piégé des entrées du tunnel. Donc, ils ont été surpris, d'une part, par le plan, ou plutôt ce qui était en train de se passer sur le terrain, sachant qu'ils avaient bombardé de manière intense avec des tonnes de bombardements, soi-disant tous les tunnels ou bien les plateformes de missiles. Et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des missiles qui sont en train d'être lancés vers Tel Aviv.
Madame Obola,
aucun exploit militaire n'a été réalisé. Et c'est là où il y a un problème, c'est que quel objectif peut-il justifier au public israélien, surtout qu'il n'a encore libéré aucun détenu israélien, que ce soit civil ou que ce soit militaire. Donc Merci. Tous les objectifs qu'il a définis n'ont pas été réalisés.
Merci Madame Obola. Merci Professeur Obola. Merci à vous Jean-Maxime Cornet également de votre participation. Je rappelle Monsieur Jean-Maxime Cornet est jusque depuis le début de cette attaque à Gaza avec nous sur ce plateau de télévision pour parler de ce qui s'y passe. Est-ce qu'on peut en entendre par rapport au système européen? Je vous remercie à tous deux pour votre expertise du jour. C'est ici que se finit notre débat. Je vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou revoir nos débats et nos productions visuelles sur notre chaîne à partir de notre site internet ou encore nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat ici sur les plateaux de Presse TV. Au revoir.
Massacre de Sabra et Shatila. Les milices des phalangistes commettent un crime pire que celui des criminels israéliens. Le massacre de femmes et d'enfants sans défense dans les camps de Sabra et Shatila, dans la banlieue de Beyrouth, est l'un des plus grands crimes dans le bilan noir du régime occupant et de ses mercenaires à l'intérieur du Liban, qui ne cesse toujours d'inciter à la sédition dans le pays. Depuis l'incident funeste de la Nakba et le début de l'occupation du fort régime israélien sur les terres palestiniennes en 1948, ce régime a commis une multitude de crimes sans précédent contre les Arabes en général et le peuple palestinien en particulier. Les génocides et les crimes perpétrés par le régime occupant depuis lors ont été pires que ceux commis par tous les fascistes de l'histoire de l'humanité, y compris les régimes d'apartheid du monde entier. Le massacre de Sabra et Shatila est considéré comme l'un des crimes les plus tristement célèbres du régime d'occupation, dont les auteurs n'ont pas été punis même après 4 décennies. Le 17 septembre 1982, le peuple libanais s'est réveillé avec la nouvelle d'un crime grave et sanglant dans les camps de Sabra et Shatila, dans la banlieue de Beyrouth. Ce fut l'un des plus grands massacres du monde contemporain, voire de toute l'histoire. Le massacre des Libanais et des Palestiniens vivant dans les camps de Sabra et Shatila s'est poursuivi pendant plusieurs jours. Au milieu de la situation chaotique au Liban, suite aux agissements séditieux des mercenaires du régime et à la guerre civile du pays, Bachir Djemail, le chef du parti Falange et l'espion israélien le plus célèbre au Liban, a été assassiné le 14 septembre 1982, quelques jours après avoir accédé à la présidence libanaise. Une fois élu président du Liban, Bachir Djemail, chef du parti des Falanges, qui était en fait un espion du régime sioniste, tout en fournissant une assistance militaire et sur le terrain à Israël pour occuper le Liban, avait même promis de signer un accord de paix avec l'occupation israélienne. Dès les premiers jours de son accession au pouvoir sur la scène intérieure du Liban, Bachir Djemail a cherché à établir des relations solides avec les Israéliens. En effet, il essayait toujours de solliciter l'opinion des Israéliens dans ses opérations et d'agir en conséquence. Selon les informations disponibles, les relations entre le parti Falange et Israël ont commencé en 1975 dans la foulée de la guerre civile libanaise. C'est à cette date que les phalangistes ont demandé l'aide d'Israël pour réprimer les réfugiés palestiniens et détruire les groupes de résistance au Liban. Et cette coopération militaire a commencé avec la réponse positive de Tel Aviv. Menachem Nivot, l'un des hauts responsables du Mossad qui se trouvait au Liban pendant la guerre, a annoncé dans une note envoyée au commandant de l'armée et des services de renseignement israéliens que les activités politiques au Liban étaient liées à la présence constante de l'armée israélienne. Selon lui, les Falanges entretenaient une bonne coopération avec Israël. Et cette situation pourrait perdurer jusqu'à ce que les Syriens et les Palestiniens se retirent du Liban. Avant d'être assassiné, Djemail avait rencontré le premier ministre et ministre de la guerre du régime sioniste et l'avait encouragé à expulser les Palestiniens de Beyrouth et des camps environnants. Au lendemain de l'assassinat de Bachir Djemail, les habitants des camps de Sabra et Shatila, situés près de Beyrouth, entendirent le 15 septembre 1982, à 6h du matin, le bruit de véhicules israéliens se dirigeant vers la zone sportive adjacente à ce camp. Ils se sont vite rendus compte que les forces d'occupation les encerclaient et qu'un grand danger les menaçait. À midi le même jour, l'artillerie israélienne a bombardé l'entrée sud du camp. Le soir du 16 septembre, alors que les familles palestiniennes, libanaises et syriennes de ces camps n'avaient aucun moyen d'échapper au siège israélien, elles s'abritèrent dans des hôpitaux, des chambres secrètes et des lieux inutilisables, alors que le camp était complètement vide de combattants et d'armes. La plupart de ces personnes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui furent l'objet d'attaques brutales des miliciens affiliés au parti Falange. Le massacre que les sionistes ont déclenché avec des mercenaires phalangistes dans les camps de Sabra et Shatila a duré 43 heures, au cours duquel 3 500 personnes ont été massacrées, pour la plupart des Palestiniens. Ces tueries se sont poursuivis jusqu'au matin du 18 septembre et la résistance des femmes et des adolescents qui se trouvaient dans le camp n'a rien pu contre la brutalité des sionistes et de leurs espions. Les militaires du régime occupant étaient chargés d'encercler les camps de Sabra et Shatila et ont informé les militants du parti Falange que les combattants armés palestiniens avaient quitté les camps. Des témoins oculaires de ce crime décrivent d'horribles scènes de brutalité perpétrées par des mercenaires du régime occupant contre les habitants du camp. Selon ces récits objectifs, les phalanges torturaient parfois leurs victimes avant de les tuer, leur arrachant les yeux, les écorchant vivants, leur ouvrant le ventre, violant les femmes et les filles, parfois plus de 6 fois, et les tuait finalement à coups de balle. Il coupait les enfants en deux et leur cognait la tête contre le mur. Lors de l'attaque de l'hôpital d'Aka, ils ont tué tous les patients dans leur lit. Ils attachaient les mains de certaines personnes à des voitures et traînaient dans les rues, et coupaient de nombreuses mains pour sortir des bracelets et des bagues. Ronen Brugman, journaliste et écrivain israélien, a publié l'année dernière des informations dans le journal Yediot Aharonot et le New York Times. Ces informations montrent que les autorités militaires et sécuritaires du régime sioniste et les dirigeants du parti Falange avaient travaillé ensemble à l'époque pour dissimuler leur implication directe dans le crime de Sabra et Shatila. Les informations et documents de ce journaliste israélien ont révélé les réalités d'une réunion secrète qu'un certain nombre de responsables israéliens ont tenue le 19 septembre 1982 avec certains dirigeants du parti Falange. Étaient présents à cette réunion Raphaël Eitan, alors chef d'état-major de l'armée israélienne, Amir Drori, le commandant de la région nord du régime sioniste, et Menachem Lifout, l'un des hauts responsables du Mossad, ainsi qu'un grand nombre de gardes. À l'époque, Raphaël Eitan a suggéré aux phalangistes de publier un faux récit et dire que ce qui s'est passé s'inscrivait dans le prolongement des événements de la ville de Damour à Saïda pendant la guerre civile libanaise, ou du crime que les forces syriennes avaient commis contre les chrétiens au Liban. On pourrait également soutenir, a-t-il avancé, qu'il s'agissait d'un conflit entre les habitants des camps et qu'il n'y avait aucune tension entre les réfugiés et les forces phalangistes. Selon le rapport de ce média israélien, l'implication d'Israël et du parti Falange dans le massacre des camps de Sabra et Shatila avait beau être évidente. Israël a tenté de présenter un faux récit à cet égard, prétendant qu'un grand nombre des victimes des camps de Sabra et Shatila avaient été tuées lors des conflits internes. Dans la nouvelle ère, les phalanges sont actives au Liban, sous le nom d'Al-Kataïb et du Parti des forces libanaises, dirigé par Samir Djadja. Elles suivent la même politique subversive que les phalanges. Il est donc impossible de ne pas voir leurs traces dans les actions destructrices et les séditions que le Liban a connues au cours des 2 dernières décennies. La nature fasciste et inhumaine de ce parti était claire dès le début. Car l'un de ses membres a écrit dans ses mémoires sur la formation du parti Falange. La formation de ce parti a vu le jour après la visite du chef de l'Institut en Allemagne, au cours de l'époque nazie. En fait, le parti Falange s'inspire du parti nazi allemand. Le parti de Samir Djadja, qui est le visage le plus honni du Liban, est connu pour avoir espionné au profit de l'ennemi occupant à différentes époques et le premier pion des sionistes pour déclencher la sédition interne au Liban. Au cours des 2 dernières décennies, l'ancien commandant des phalangistes et ses alliés ont directement participé à toutes les conspirations orchestrées par les États-Unis et le régime sioniste contre le Liban. Le massacre de Libanais dans le quartier d'Al-Tayouna à Beyrouth en octobre 2021 est l'un des derniers crimes commis par les résidus des phalanges au Liban. Affaiblir et saper la résistance qui, en expulsant les occupants sionistes du sud du Liban, a stabilisé depuis 2000 sa position nationale à différents niveaux au Liban, constitue l'objectif principal du parti Djadja et de ses alliés. Pour atteindre cet objectif, ils n'ont épargné aucune conspiration contre le Hezbollah au cours des 2 dernières décennies. Qu'elle soit militaire ou politique. Or, les réalisations et les équations importantes stratégiques que la résistance a établies pour la défense du Liban et de sa souveraineté contre l'ennemi sioniste prouvent que l'ère des mercenaires israéliens au Liban est bel et bien révolue et que toutes leurs tentatives ne visaient qu'à assurer leur survie.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.